Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump? Alexis Karklins-Marchais, bonjour,
bonjour,
directeur général délégué d'Advisory. Un sommet quand même peu conclusif, quelques déclarations par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous avez retenu?
D'abord, on se pose toujours cette question, qui sort gagnant de ce genre de sommet? Est-ce qu'il y a des gagnants? Est-ce qu'il y a des perdants? Alors, il faut toujours se méfier de ce type d'analyse, parce qu'en réalité, d'abord, on ne se connaît pas le détail des pourparlers. Et puis, on a tendance à projeter sur ce genre de sommet ses propres convictions. Si vous êtes un supporter de Trump, vous pensez qu'il a fait un très bon sommet. Si vous ne l'aimez pas, au contraire. Bon. Il y a d'abord beaucoup de mise en scène. Alors, je veux dire, c'est un passage obligé, mais il y a eu beaucoup de mise en scène à un niveau assez rare. C'est vrai que c'était très grandiose. Il y avait l'accueil au grand hall du peuple, la place Tiananmen, les défilés militaires, les enfants avec les drapeaux, la visite au temple du ciel, le dîner d'État. Les Américains étaient venus en force. Ils ont montré l'importance qu'ils accordaient à ce sommet. Il y avait tout le premier plan de l'administration Trump. C'est Rubio, c'est Exet, c'est Besant, c'est Stephen Miller. Évidemment, tout le monde a noté la présence des grands patrons, notamment de la tech, Tim Cook, Jason Wang, bien sûr Elon Musk, d'autres groupes américains. C'était très millimétré. Il y a eu beaucoup de symboles aussi. Les Chinois sont toujours très forts en matière de symboles. On a vu par exemple les poignées de main. On sait que Trump aime bien ces poignées de main très viriles. La façon dont le président Xi a esquivé ces poignées de main. On a vu aussi tous les prises de vue pour faire en sorte que jamais le président Xi n'apparaisse plus petit que le président Trump, ce qu'il est dans la réalité. Et puis il y a eu même des symboles un peu plus cachés, comme par exemple la visite dans un parc à côté de la cité interdite, où le président Xi montre à Trump un arbre de 300 ans, insistant bien sur les 300 ans sous-entendus plus anciens que l'existence de l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc ça, c'est la mise en scène et elle dit beaucoup, mais sur la substance. Et en une phrase vraiment, la substance, ça a été quand même pour beaucoup d'observateurs, non seulement, j'allais dire, bien sûr, la presse chinoise, mais aussi la presse américaine, l'affirmation de la puissance chinoise, l'affirmation d'un rival qui est très présent.
Annalisa.
Vous nous aviez dit la semaine dernière ici que vous étiez persuadé que le fond allait être moins important que la forme. Est-ce que vous le pensez encore?
Ah oui, tout à fait. Et on le voit notamment dans les attitudes. On le voit vraiment dans les attitudes. Le président Xi, très maître des lieux, fixant le tempo, parlant, alors toujours encore une fois dans les mots, les symboles, parlant de partenaires plus que de rivaux. La citation de Thucydide, le fameux piège de Thucydide, ça beaucoup d'observateurs l'ont analysé, mais ça c'est génial. C'est quoi? C'est de dire que dans la guerre du Péloponnèse, donc historien grec Thucydide du 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on a une puissance dominante ou émergente, pardon, et puis une puissance déclinante. Bon, et quand Xi évoque ce piège de Thucydide, il est en train de dire, en filigrane, vous, États-Unis d'Amérique, vous êtes une puissance déclinante, nous sommes la puissance émergente, attention à la rivalité. De l'autre côté, dans les attitudes toujours, Donald Trump, presque sobre, peu de provocation, même pas du tout de provocation, très déférent, très discipliné. Alors évidemment, il a multiplié les great, great country, great friend, great everywhere, bien sûr, ça on est habitué à ça, mais finalement pas de sortie de route, très très dans le protocole, il a même bu un verre à un moment dans le toast, alors qu'il ne boit jamais d'alcool, j'entends. Donc voilà, donc des moments, un moment assez, assez fort sur, encore une fois, la représentation de ce que ça voulait dire.
Il y a quand même un dossier intéressant, c'est Taïwan, avec des mises en garde chinoises quand même assez claires et une non-réponse assez parlante de Donald Trump.
Alors, tout à fait, non-réponse pendant le sommet. Et c'est vrai que s'il y a eu un sujet peut-être de fond qui est sorti de ce sommet, c'est bien Taïwan, pas pendant, mais après. Après, parce que Trump prend la parole à son retour aux États-Unis chez Bret Baier, donc le grand journaliste de Fox News, dans lequel il concède un certain nombre de points qui semble être presque la logorée chinoise. C'est-à-dire qu'il parle de la Chine, qui est un très très grand pays, alors que Taïwan n'est qu'une petite île. Elle est à 59 miles du mainland China, de la Chine continentale, mais à 9500 miles des États-Unis, sous-entendu c'est très loin, insistant sur le fait que Taïwan a volé aux États-Unis l'industrie des puces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un discours qui ressemble beaucoup à un discours de Pékin. Et là, on a vu sans doute une forme d'abandon.
Donc il s'apprête à lâcher Taïwan.
Et ça va se matérialiser très simplement sur la vente d'armes. Est-ce que les États-Unis vont vendre des armes? On parlait de contrats potentiels à 14 milliards de dollars de vente d'armes américaines à Taïwan. Est-ce que ces armes vont vraiment être gelées comme cela a été annoncé? Voilà, ça c'est un sujet. Ce qui est là aussi dans les mots, les Chinois ont rebondi en disant « Il nous semble que les Américains ont compris les objectifs de Pékin ».
Il y avait quand même analysé un sujet à Taïwan autour de Marco Rubio, qui lui était plutôt pro-défense taïwanaise.
Effectivement, ce qu'on voit en revanche, c'est que petit à petit, ça change, que les États-Unis se désengagent. Ça, c'est une victoire pour la Chine. L'autre victoire qu'on peut donner à la Chine, c'est le fait qu'ils aient réussi à garder le sommet sur les sujets qui les intéressaient. Donc, Taïwan et le business, et finalement, on n'a pas vraiment beaucoup parlé d'Iran, où il n'y a pas de déclaration
qui est
sortie.
C'est vrai.
Alors que c'était ce qui intéressait.
Sur l'Iran, Donald Trump est rentré en disant qu'ils avaient trouvé un accord avec la Chine. La Chine n'a pas du tout confirmé d'accord sur la fin de la guerre en Iran, sur la réouverture du détroit d'Ormuz, et puis sur la capacité de l'Iran à accéder à l'arme nucléaire. Alors, la Chine n'a pas du tout confirmé ça dans les conférences de presse. En termes de promesses commerciales, promesses d'investissement, service minimum, hein, oui, quelques promesses sur les produits agricoles américains, sur l'achat de Boeing, et beaucoup moins d'ailleurs que ce qui avait été annoncé. Mais sur le fond, il y avait un sujet économique qui, pour le compte, était très important. C'est la fameuse opposition. D'un côté, les Américains tiennent les puces, en tout cas les puces les plus avancées. De l'autre, la Chine détient les terres rares. On pouvait imaginer que peut-être il y aurait un accord ou une forme d'accord. Rien là-dessus. Donc oui, finalement, les grands sujets sont passés un peu sous le tapis, ou en tout cas de façon très, 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 très légère. Le vrai sujet qui a été abordé là, le point sensible, c'était Taïwan.
On finit quand même rencontre avec l'annonce de la venue de Vladimir Poutine juste derrière, Annalisa.
Oui, évidemment, c'est très inquiétant pour Donald Trump. C'était folie tout un symbole. Et surtout, il y a là aussi une question de symbole. Vous évoquez le fait que les Chinois sont très forts sur les symboles. Ils ont attendu des mois, des semaines avant de confirmer la venue de Donald Trump. Là, il confirme tout de suite celle de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la Chine se pose comme une puissance d'équilibre et une puissance de médiation, mais aussi comme une véritable puissance en Asie. On sait qu'aujourd'hui, la Chine voit de plus en plus la Russie comme une forme de colonie de ressources. Et d'ailleurs, c'est une lecture qui, à Moscou, commence à se faire en disant, mais finalement, cet accord entre le président Poutine et le président Xi devait être une forme d'accord, d'alliance stratégique. La réalité, c'est que là encore, la Chine affirme sa puissance. Elle est en train de dominer toute la partie orientale du monde, par rapport à nous en tout cas. Et donc, on rentre dans une nouvelle ère. Et d'ailleurs, on voit la suite. C'est un format G2 qui est en train de se dessiner. G2, États-Unis et Chine. Deux rivaux qui se voient maintenant d'égal à égal. On va voir, normalement, ils doivent se reparler, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois cette année. On va voir la suite, mais clairement, on a assisté à un changement, un basculement du monde. C'est pas un grand reset stratégique, c'est une trêve tactique, mais c'est encore une fois dans les images que le plus important pouvait se lire.